Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de passer ces moments avec vous. Je voudrais vraiment déjà remercier mon frère pour l'invitation. C'est vrai qu'une communion s'est rapidement installée entre nous, une collaboration même, puisque lors du stand biblique dernier de la braderie de Lille, nous avons pu un peu travailler ensemble et il a toujours la pêche. C'est quelque chose, hein. C'était beau à voir, c'est toujours beau à voir. Et voyez-vous, il est important de pouvoir encourager les frères qui travaillent de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors, je ne voulais pas forcément parler de mon parcours. J'étais pasteur dans les Assemblées de Dieu de France. Pendant tout un temps, j'ai eu des responsabilités au sein des œuvres. Avec mon épouse, nous avons donc travaillé sur l'Assemblée de Carvin. Nous avons travaillé sur l'Assemblée de Meurchin. Nous travaillons également auparavant sur les assemblées de Liévin, avec une collaboration pendant tout un temps avec des frères. Et puis ensuite, il y a eu des choses aussi qui étaient sur mon cœur dès mon appel pour le service. Et des choses qui parfois, voyez-vous, nous posent des questions quand le Seigneur les place aussi dans nos cœurs. Et puis la suite des temps fait que le Seigneur nous l'avait déjà dit. Il y a eu ce qu'on peut appeler pour certains, certaines fractures, mais qui sont en fait des croisements dans lesquels, quand on est à l'écoute de Dieu, il y a aussi dans nos cœurs des chemins qui se tracent. Et je voudrais dire déjà que Dieu n'est pas forcément le Dieu uniquement des signes, on attend de lui beaucoup de signes, mais le Seigneur place plutôt dans le cœur des chemins tracés. Parce que sinon, on peut facilement être influencé par telle ou telle chose et guetter des signes ici ou là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que c'est pour quelqu'un. Rappelez-vous quand l'apôtre Pierre, le Seigneur va lui dire « Quelqu'un d'autre te scindra et te mènera là où tu ne voudras pas aller. » Par la suite, il va se retrouver en prison. Et puis, il y aura déjà eu un serviteur ici, Jacques, qui sera passé, on va dire, à l'échafaud, on va dire ça comme ça. Et Pierre, lui, est en prison. On l'a mené là où il ne voulait pas. Et il pourrait très bien dire « Eh bien, donc, ça veut dire que c'est là que je vais finir. » Puisque le Seigneur lui avait indiqué à l'époque de quelle manière il allait périr. Et Pierre aurait très bien pu dire, mais alors c'est là, j'ai le signe, ça s'est confirmé. Eh bien non, Pierre a été relâché de prison et Pierre va avoir un ministère qui va se poursuivre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on cherche des signes. Il faut chercher Dieu et il faut rester à l'écoute de Dieu. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire amen. Ça ne vous dérange pas de dire amen de temps en temps ? Je suis venu chez vous ce matin, voyez-vous, avec plusieurs choses sur le cœur. Ça peut arriver. La première chose, c'est l'une des choses qui m'est arrivée encore, c'était tout à l'heure sur ma chaise. Et je voudrais dire à quelqu'un que dans l'écriture, j'ai essayé de trouver ce passage, mais peut-être que c'est parce que vous devez le chercher. Mais à un moment donné, le Seigneur va parler à un aveugle, il va lui imposer les mains, il va lui dire « Que vois-tu ?» Il va dire « Je vois des hommes et ils sont semblables à des arbres. » Et le Seigneur va à nouveau prier pour lui. Et il verra clair. Vous vous rappelez ce texte? Et je voudrais dire à quelqu'un qu'il est important non seulement de prier et de se dire peut-être qu'il y a une petite amélioration, mais c'est rien du tout par rapport à ce que je voulais. Mais je voudrais dire à quelqu'un, eh bien, tu dois continuer. Tu dois à nouveau prier. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à espérer. Tu dois continuer à demander au Seigneur. Et tu dois le faire avec une foi pleine et entière. Ce n'est pas parce que les choses se présentent devant toi comme n'étant pas forcément ce que tu escomptais qu'elles ne vont pas forcément le devenir. Mais toi, sois droit de cœur. Et continue à te confier dans le Maître. Abandonne tes conceptions. Abandonne des doutes. Tu sais très bien que le doute ne sert à rien. Ça te plombe. Permettez-moi de parler comme ça, parce que je crois que c'est nécessaire pour quelqu'un. Ils te font donc espérer. Et voyez-vous, cette personne n'a pas dit « Bon, cette amélioration, je vais devoir m'y habituer. » Le Seigneur, lui, ne s'est pas habitué à ça. Il a répondu à cette attente. Et voyez-vous, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel et parfois de le faire. Vous savez, quand il est dit en silence, c'est plutôt dans le fait de ne pas commencer à essayer de partir par monts et par veaux. On a regardé nos montagnes, on s'est approché de lui pour trouver le secours, et puis comme le secours n'arrive pas correctement, même s'il arrive quelque peu, on se met de nouveau à regarder les montagnes. C'est fini cette vision-là. continue à espérer en l'Éternel. Il est ton appui. Et il agira. Je voudrais prendre un texte avant qu'on parle de la grâce de Dieu. Et ce texte, il se situe dans le livre des Rois. Et je voudrais qu'on puisse le prendre ensemble. Il s'agit ici de la vocation d'Élisée. Et on va voir ensemble ce qui caractérisait déjà. Vous savez, il y a des choses qui sont, j'allais dire, détectables de la part de Dieu. Il y a déjà des choses que le Seigneur fait dans le secret. Vous savez que Dieu est le Dieu du secret. Nous, on aime bien les choses qui sont tape à l'œil des fois, mais le Seigneur, c'est quelqu'un qui travaille dans le secret. Et on va voir cela, on va prendre le livre des Rois. Livre des Rois. Chapitre 19, verset 15, Dieu va parler à Élie, juste après une certaine situation, à l'entrée d'une caverne. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle, et puis Dieu va lui dire, tu vas aller loin de Élisée. Il ne le met pas sur la touche. Il y en a qui pensent que Dieu les met sur la touche des fois, mais Élie va continuer d'être utilisé par Dieu. Mais il y a quelque chose à préparer, la suite. Et il y a quelque chose qui se forme dans le cœur du serviteur. Il ne veut pas rejamber par rapport à ça. Il va faire ce que Dieu lui a dit. Tu vas aller oindre Élisée. On prend ce texte. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. » Oh, quoi, comment ça? Et alors, si c'est le plan? Et c'est ce qu'il va faire. Il arriva que celui qui échappera à l'épée, etc., parce qu'il y avait des jugements ici que Dieu voulait prononcer, mais je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas, verset 18, fléchis les genoux devant Baal, c'est bon de ne pas fléchir les genoux devant Baal, d'être des hommes et des femmes d'engagement, et surtout constant, dont la bouche ne l'a pas baisé, et il est parti de là, et là on va voir quelque chose de particulier. Et il est parti de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie va s'approcher de lui. Il va jeter son manteau sur lui, ça a quand même une signification particulière ici. Élisée va, quittant ses bœufs, va courir après Élie. Et il va lui dire, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui dit, va et reviens, car pense à ce que j'ai fait, ou ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il va revenir, prendre une paire de bœufs qu'il va offrir en sacrifice avec de l'attelage des bœufs. Et avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut au service d'Élie. Voilà quelqu'un qui est conscient de ce qu'il y a sur son cœur, de ce que Dieu fait. Et pourtant, il va se mettre au service du serviteur de Dieu actuel. Quel bonheur quand il en est ainsi. Je voudrais vraiment partager ce fait et je voudrais qu'on puisse voir dans un premier temps cette chose-là, parce que je suis venu avec un message qui parle de l'œuvre de Dieu, de la conception de cette œuvre et de l'implication et des motivations qui doivent animer ceux, celles qui veulent être dans un service. Il y a des choses que Dieu déjà fait dans le secret. Et c'est ce qui se passe ici. Et voyez-vous, quand on se tient avec Dieu, il y a déjà des choses qui se font dans le secret. On nous parle du secret de la chambre. Mais dans ce secret où l'on rencontre Dieu, Dieu nous rencontre aussi, forcément. Et il y a des choses qu'il opère chez nous, qu'il travaille chez nous. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous est dit ceci. Élie part, il trouve Élisée qui laboure. Élisée, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un travail à faire et c'est quelqu'un qui n'attend pas telle ou telle chose pour être à l'œuvre. C'est quelqu'un qui se met déjà à disposition. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui sait retrousser ses manches. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail à faire. Ça va? C'est quelqu'un, justement, lui, il attend la suite parce qu'il sait que pour qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait d'abord un travail de fond. C'est quelqu'un donc qui va être profond. C'est quelqu'un qui va être engagé. Et voyez-vous, il faut toutes ces choses-là chez l'homme ou la femme, et là je ne parle pas d'un service au niveau de la prédication, mais déjà ça doit caractériser tout homme et toute femme de Dieu. Des engagements, une volonté, du courage face aux choses à entreprendre et avoir en but la moisson. Espérer et prier dans ce sens-là. Vous avez remarqué, ils ne vont pas passer, bien sûr que le semeur, il sort pour semer. Mais voyez-vous, le terrain dans lequel la semence va prendre dans la parabole, des terrains, ben c'est le terrain qui est préparé en fait. C'est celui-là, parce qu'il va être meuble, il va être apporté. Vous avez vu que dans les autres terrains, il manque pour l'un de la terre, pour l'autre, il y a des cailloux, il y a des choses qui sont là, il y a tout un travail de fond qui font que le terrain, il est propre à recevoir la semence. Et quand la semence arrive, allez savoir ce qui se passe, ça pousse, ça porte du fruit, les oiseaux du ciel viennent même à un moment s'abriter. Mais il y a eu un travail de fond. Élisée, c'est quelqu'un qui est un laboureur, c'est pas quelqu'un qui va à travers champs pour autant. Il y en a certains qui, parce qu'ils arrivent dans une œuvre ou parce qu'ils peuvent avoir une place, alors ça y est, on bouscule tout, on chamboule tout, c'est nous, on va laisser notre trace, ma punaise. T'aurais peut-être mieux fait de pas monter sur le char, ou plutôt de l'arrêter, baignure. Élisée, c'est quelqu'un qui va vouloir s'impliquer et qui va être appliqué. On le voit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs, ce qui veut dire que Élisée a une vision du travail qui est en train d'être fait. Que Élisée a une vision du travail qui reste à faire. Et que Élisée, forcément, il va agir avec la 12e paire de bœufs. Il y en a 11 devant lui, ce qui fait que il voit le travail qui est fait et il va devoir respecter les sillons que les autres ont tracés. Il va donc travailler même aux côtés d'eux. Il va venir à la suite d'eux. Il va respecter le travail fait par les autres. Et voyez-vous, ça c'est important parce qu'il faut qu'il y ait cette cohésion dans la vision des choses. On n'est pas là pour arriver simplement. Bien sûr qu'on peut avoir une certaine vision. Là, on peut parler des ministères dons. Mais bien sûr qu'il y a ça. Mais on arrive avec le respect de ce qui avait déjà été fait. On arrive avec le respect de ce qui a été établi. Et puis forcément, il y a des relais qui sont faits parce qu'il y a des choses que lui peut faire que l'autre ne pouvait pas faire. Mais il y a cette continuité pour la stabilité et en vue de la moisson. Amen. Ça va comme ça ou... Ah, ça me... Mais l'évangile, ça donne la pêche. La Bible, c'est de la dynamite, Damien. Parlez de ça, mais moi, quand j'ai commencé à lire l'écriture, je me suis rendu compte... Et il ne l'a pas partagé, évidemment, c'est logique. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, ce livre, c'est quoi ça? C'est du feu. Je suis en train de vivre quelque chose dont on ne m'a pas parlé. C'est écrit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un livre comme les autres. Et c'est quelque chose que je vais dire aux musulmans, à quiconque peut, m'accepte que je puisse mais l'évoquer, en discuter. Élisée, voyez-vous, il y a déjà des choses qui sont au fond de son cœur. Il y a ces choses-là. Et il n'y a pas d'orgueil, vous savez. Il rentre dans un travail. Il sait qu'il a sa part à faire. Il faut être des gens qui s'engagent. Et je voudrais peut-être remettre quelqu'un, oh, pas le reprendre, mais lui dire, mais respecte tes engagements. Il travaille en cohésion. Pas forcément dans ton coin. Oh, on fait du travail hein, ici ou là, c'est sûr. Mais entre dans la vision. Respecte le travail des autres. Joins-toi à eux pour permettre à ce que d'autres champs puissent être encore travaillés. Ici, il nous est dit que Élie va venir s'approcher de lui. Alors, Élie a dû quand même... Il n'était pas marqué Élisée, hein, dessus. Et Élie va être comme... pas aimanté, mais il va s'approcher de lui. Il sera dirigé. Il n'y a pas photo, comme dirait quelqu'un. Pourtant, s'il y avait une photo, j'aurais bien voulu la voir. Mais il nous est dit ceci. Élie va s'approcher de lui, il va jeter son manteau. Élisée va quitter ses bœufs. Il va courir après Élie. Il va lui dire, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. C'est un homme qui va s'engager. C'est un homme qui respecte beaucoup ceux qui l'entourent. Mais c'est quelqu'un qui sera à faire passer ce qu'il reçoit dans son cœur avant toute chose, mais en respect de toute chose. Et voyez-vous, il est important de pouvoir respecter toute chose. Respecter le travail qu'on est en train de faire, celui qu'on a sur le cœur. Mais cela ne doit pas nous amener à nous dire « Ah ben j'abandonne tout le reste, je me dois de respecter et de faire les choses avec ordre, bienséance, correctement. » Ça ne veut pas dire avec un temps latent qui va durer 10-15 ans. Mais je vais commencer à être sensible à ça. Et Dieu va travailler mon cœur pour que je le sois. Amen. Il nous est dit ceci. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et Élie va dire, mais va, viens, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, de ce que je t'ai fait. Et puis au verset 21, parce que le temps me manque pour détailler, puisqu'on doit partir dans d'autres textes, il nous est dit ceci. Après s'être éloigné d'Élie, il va reprendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, il y aurait des choses à dire ici aussi, la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ici, il y a un trait particulier à la vocation d'Élisée. Et on le perçoit ici, voyez-vous. Il va offrir les bœufs, il va nourrir le peuple. En fait, dans son cœur, il a l'instinct du nourricier. Et voyez-vous, les vocations, il y a des choses qui se distinguent parce que dans le cœur de la personne, il y a cette volonté d'être un nourricier, d'être une... Et c'est quelqu'un donc forcément qui va s'affermir dans les Écritures. Il y aura un amour parce que la véritable nourriture, c'est la parole de Dieu. Et Élisée, c'est quelqu'un qui va être un, avec déjà dans son cœur, cette volonté d'être un nourricier. Vous savez ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas étonné que Dieu voulait qu'il puisse prendre cette place-là. Parce qu'il y a déjà dans son cœur, voyez-vous, il y en a certains, ils vont commencer à être entre guillemets spirituels dès le moment où on a les rétros sur eux. Dès le moment où les projecteurs s'allument sur eux, alors là, ça y est, alors là, maintenant je suis en vue, alors il faut absolument. Chez Élisée, il y avait déjà toutes ces choses-là, alors qu'il n'y avait rien qui était en vue. Hein. Mais tout était déjà en train de se tisser. Il y avait tout un travail en profondeur, voyez-vous. Il n'y a pas une recherche de reconnaissance. Mais Dieu a reconnu le travail qu'il avait pu opérer chez lui. Ces choses qu'il avait déjà pu placer. Et Dieu avait des plans pour lui. Et il a pu les accomplir. On voit vraiment... la disposition de cœur d'Élisée également. J'aurais pu encore m'attarder, mais on voit vraiment aussi la disposition de cœur dans le dernier verset, c'est que, eh ben, il va se mettre au service d'Élie. Élisée avait très bien compris que recevant le manteau, ce que ça voulait dire. Mais il lui a pas dit, bon ben, allez, c'est moi maintenant. Il s'est mis au service d'Élie. Ce n'est pas parce que la porte s'ouvrait qu'il n'avait pas encore à apprendre, bien au contraire. Et ce n'est pas parce qu'il avait déjà tellement appris, peut-être sûrement par un travail profond, qu'il n'y avait pas encore d'autre chose. On a toujours à apprendre, on est toujours à l'école. Et on doit savoir continuer à se mettre au service d'eux. Moi, je suis heureux, voyez-vous, de pouvoir me mettre encore au service de l'Église. Au servir des frères, là je suis en train d'aider aussi des assemblées qui sont en difficulté parce que voyez-vous, et je ne veux pas me recommander, on n'est pas grand-chose, mais il y a des pasteurs qui sont en difficulté, vous savez, qui vivent des moments durs. C'est une joie pour moi d'être à pouvoir les aider, pouvoir partager, mais comme je dis souvent aux frères, vous savez, je ne suis pas venu pour prendre la place, je veux simplement vous allier mieux, frère, je prie dans ce sens, et si on peut collaborer pendant un temps ou plus, ça ne me pose pas de soucis. L'important, c'est pas nous en fait. L'Écriture nous dit que lorsque nous avons fait toutes les choses que nous devons faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est la grâce de Dieu qui agit. Et on va en parler de cette grâce de Dieu. Et je vous invite à faire avec moi une lecture dans le livre. Oh, je ne vais pas le citer maintenant. Mais je voudrais d'abord vous poser cette question. C'est quoi pour vous la grâce de Dieu ? Est-ce que les frères et sœurs ici ont le droit de répondre ? Alors répondez. C'est quoi pour vous la grâce de Dieu ? Oula. Faveur imméritée, d'accord ? Ensuite ? Pardon ? Quelque chose qu'on ne mérite pas, donc une faveur imméritée. Ensuite, qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Quelle question ? C'est gratuit ? C'est la paix de Dieu ? D'accord ? C'est la vie ! Il y a des choses forcément qui se rejoignent. Voyez-vous, ça, si vous me le permettez, c'est une partie de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on va le lire ensemble, et là, je vais vous donner la référence, parce que sinon, quelqu'un aurait déjà trouvé. On va aller dans le livre de Tite, figurez-vous, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, c'est effectivement ce que vous dites. C'est exactement des grâces imméritées, c'est exactement la vie, elle est porteuse de vie. Mais elle est porteuse aussi d'autres choses. Et voyez-vous, la grâce de Dieu, elle s'expérimente et la grâce de Dieu, elle produit quelque chose aussi. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Voyez-vous, je pense, je ne dis pas forcément ici, n'est-ce pas ? C'est toujours ce qu'on dit. Mais il est possible de recevoir la grâce de Dieu de moitié, vous savez ? De la vivre à moitié. La grâce de Dieu, elle va nous pousser vers quelque chose. Elle va nous amener quelque chose dans nos vies. Et il nous est dit ceci, et là vous aviez raison, évidemment, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut, on a parlé de salut, c'est une source. Et je voudrais dire à quelqu'un, déjà, c'est pas un filet. Hein. Il y en a peut-être qui se disent, moi, j'arriverai jamais à me dépêtrer de telle ou telle situation, de tel ou tel péché. Comment ça ? Mensonge. Celui que le Fils peut affranchir, il va le rendre réellement libre. Laisse-moi te dire que rien, rien ne peut tenir face à cette source qui est la grâce de Dieu. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce vient surabonder. Alors laisse passer ce fleuve dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse lui résister. Et je voudrais que, peut-être que certains vont dire Amen maintenant, mais je voudrais que toi aussi tu le dises Amen. Parce que la grâce de Dieu, elle est pour toi. Regarde, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour toute personne. Ah, peut-être qu'une dame dit, ouais, c'est pour tous les hommes. Moi, je suis une dame. C'est pour tout être humain. Quiconque croit. Est-ce que tu ne veux pas croire comme tout à nouveau ? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Damien le chantait, nous l'avons chanté avec lui. Il a tout accompli. Et nous sommes aujourd'hui à pouvoir marcher en nouveauté de vie. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ça, c'est ce qu'on a partagé tout à l'heure. Mais la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, elle est porteuse d'un enseignement. Et cet enseignement, il est exigeant. Cet enseignement est exigeant. Parce que justement, la grâce de Dieu est tellement efficace que derrière, elle vient avec un enseignement. Parce qu'il nous faut marcher en nouveauté de vie. Et d'une manière différente d'avant, forcément. L'Écriture nous le dit, elle nous enseigne. La grâce de Dieu, elle est porteuse d'un enseignement. Comment est-ce que je vis la grâce de Dieu ? Est-ce que je la vis simplement dans le fait qu'elle me permettrait, vous savez, on l'a déjà tous entendu ? Alors même si, alors il y a la grâce. Et parfois certains disent, je peux me permettre, il y a la grâce. Faux. Parce qu'il y a la grâce, il y a l'enseignement de la grâce. Et cet enseignement est exigeant. parce que cet enseignement m'amène à renoncer à l'impiété. Il m'amène à renoncer aux convoitises mondaines. Il m'amène à marcher en nouveauté de vie. Il m'amène à vivre la sanctification. On en entend. Peut-être qu'ici, évidemment, vous en entendez, mais le renoncement, la sanctification, ces enseignements, en fait, par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu ne permet pas certaines choses. Certains disent, elle est permissive. Permissive. Elle permet de marcher en nouveauté de vie, oui. Oui. Elle permet de marcher comme il se doit, oui. Elle nous permet d'être sans compromis. Et ça nous coûte énormément. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu, quand on veut la vivre et qu'on veut être sans compromis, ben je peux vous dire que vous avez les vents contraires. Hein. Et alors ? Et alors ? Ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas nous faire peur. Au contraire, ce n'est pas grave qu'il y ait des vents contraires. S'il y a des vents contraires, c'est qu'on avance quand même. C'est qu'on avance quand même. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tout ce qui est de l'impiété ou tout ce qui ressemblerait, tout ce qui n'est pas de la véritable piété. À renoncer à ça. Renoncer à la fausse image qu'on veut montrer. Renoncer à toutes ces choses-là, à être vrai. L'Écriture nous dit, on l'a tout à l'heure, on avait été dirigé vers cela, il faut adorer Dieu. Mais l'Écriture nous dit, en esprit et en vérité, en authenticité. Ce que le Père recherche, c'est ça. C'est ceux qui, comme dans Romains 12, offrent leurs membres comme un culte raisonnable. L'enseignement de la grâce est un enseignement exigeant. Et ce n'est pas toujours agréable à entendre. Mais c'est tellement agréable à vivre. Il y a des choses, quand on les entend, elles sont désagréables à nos oreilles, alors elles sont désagréables à notre chair. Mais la chair, elle n'a pas son mot à dire. Elle n'a plus son mot à dire. L'Écriture nous dit, vous pouvez faire mourir le vieil homme. Et l'Esprit de Dieu est en mesure d'agir en vous. Parce qu'il y a des désirs contraires, mais l'Esprit peut vaincre toutes ces choses-là. Parce que la grâce de Dieu, qui est une source de salut, passe dans vos vies. Elle vous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle vous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. J'ai pas besoin. Oh, vous savez, je pourrais venir avec un déroulé de choses. On sait très bien de quoi il s'agit. On sait très bien ce qui va préoccuper nos pensées. On sait très bien où est notre trésor. Parce que là où est notre trésor, alors vous ne croyez pas qu'il faudrait qu'on veille un peu plus sur ça ? Je sais que certains le font, hein, c'est évident. Mais vous ne croyez pas que pour quelqu'un, c'est peut-être intéressant de se dire « Punaise, mais c'est pas possible, je suis passé à côté là !» On va y venir tout à l'heure. Mais c'est vrai que justement, là, c'est le mois de janvier. Alors certains se disent « C'est le mois de la bonne année, mais c'est aussi le mois, semblerait-il, des résolutions. » De plus en plus, on dit « Bonne année », de moins en moins, on dit « Hé, je te souhaite de bonnes résolutions. » Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les résolutions, normalement, incluent des engagements, mais des fois, on n'est plus trop résolu parce qu'on sait très bien ce qui se passe face aux résolutions qu'on prendrait, aux engagements qu'on prendrait. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à garder le cap, à tenir le cap. Elle nous enseigne à plaire à Dieu. Je suppose que vous voulez plaire à Dieu. Alors, laissez la grâce de Dieu continuer de vous enseigner. Et forcément, elle va vous enseigner à vous mettre à part. Pas à vous isoler. Vous avez vu Élisée ? C'est pour ça que j'ai pris le texte d'Élisée. Il est comme mis à part de Dieu. Mais il est au milieu des autres, là, à ce moment-là. Et il est avec une vision de ce qui est en train d'être fait. C'est pas quelqu'un qui va s'isoler. Vous savez, il y en a certains qui disent « Je me sanctifie. Plus de contact, ceci, cela. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. L'Écriture nous dit même qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, on peut briller.
C'est pas en étant isolé d'eux, hein, simplement. Mais c'est pas non plus en allant se mettre dans le bourbier. Il y a des équilibres à ça. Et la grâce de Dieu est là pour nous enseigner. Et forcément, cet enseignement va aussi donc nous diriger. Il va nous sensibiliser. Il va nous rendre attentifs. Vous avez déjà remarqué ce texte qui nous dit, j'avais prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps, « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'apprenne à écouter à la manière des disciples. » Si j'accepte ces choses-là, alors une éveil va se faire. Une attention va se faire. Ça va se développer. Et ce ne sera pas simplement pour me dire « Eh, moi je sais discerner. Hein. Eh, moi, Dieu me parle. » Il y en a certains, c'est « Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle », mais ils ne savent même plus écouter ce que l'Écriture leur dit. On verra peut-être, enfin le temps va nous manquer là par contre. Mais tout à l'heure, il sera question de Daniel. Mais Daniel, c'était un homme de vision. C'est vrai. Nous, quand on voit la personne de Daniel, on voit la personne comme étant quelqu'un qui a eu des visions. C'est magnifique, Seigneur, moi j'en veux des visions. Mais Daniel, c'était un homme des Écritures. C'était quelqu'un qui savait lire dans le livre du prophète Jérémie. C'était quelqu'un qui savait s'appuyer sur la parole de Dieu. Et voyez-vous, l'important, c'est là. Il ne faut pas simplement s'abandonner peut-être à des visions, mais le Dieu qui est équilibré, même s'il donne une vision à quelqu'un, elle sera en correspondance avec les Écritures. Et Dieu ne veut pas de vous ni de moi que nous soyons simplement des personnes ayant des visions. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes, d'abord des Écritures. Vous avez le droit de dire d'accord ? Vous voulez que je m'arrête là ? Ça va ? Ça fait peut-être un peu expressif, le frère est peut-être... Bon, ça veut peut-être dire enfonce le clou. L'Écriture nous dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Il y en a certains qui se recommandent comme étant sages. L'Écriture nous montre ici, ceux qui sont sages, c'est ceux qui se laissent enseigner par la grâce de Dieu et qui ne se recommandent pas pour autant. Ah, moi, je le fais. Alors, tu vas progresser, hein. Et tes progrès vont devenir donc évidents pour tous. Il faut que tes progrès deviennent évidents pour tous. Et ça peut se faire uniquement si tu marches avec Dieu et que tu laisses la grâce de Dieu et son enseignement atteindre ton cœur. Alléluia. À vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Évidemment. Quelle marche différente! Quelle assurance! Et puis forcément, tout de suite, on va être perçu au fur et à mesure, en tout cas, comme ayant de bons fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits, il y a plein de choses qui vont se faire. Il y a des confiances qui vont se faire. Je crois qu'il y a des fardeaux qu'on n'ose pas confier, parce que justement, on ne peut pas avoir confiance. Mais l'Écriture nous dit de porter les fardeaux les uns les autres et d'accomplir ainsi la loi de Christ. Et pour faire ainsi, il faut avoir confiance en l'autre. Mais je sais que Dieu travaille le cœur de celui qui se laisse enseigner par la grâce et l'enseignement de cette grâce. Le texte nous dit, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. » Nous pourrons uniquement être zélés pour les bonnes œuvres que si nous laissons l'œuvre de la grâce de Dieu nous enseigner. Elle nous conduira dans la véritable vision des choses et des choses à entreprendre. Vous savez, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. L'Écriture nous le dit, vous l'avez vu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Le renoncement ici ne nous amène pas à avoir la mine à la 11h30, hein. La mise à part nous rend heureux. Et je voudrais vous dire que même si ça coûte, même s'il y a un prix à payer, ça en vaut, et vous le savez, pour beaucoup, la peine. Ici, il nous est dit « en attendant la bienheureuse espérance ». On est là comme ça. Et on est heureux au fond de son cœur. On est heureux. Je vous avais promis d'aller voir Daniel. On a encore un peu de temps pour Daniel ? J'ai pas l'heure, j'y vais pas avec deux montres. Je suis désolé, faut pas hésiter. Daniel, chapitre 1er. Hop là. Nous allons voir ici quelqu'un chez qui déjà
On va dire comme ça, la grâce de Dieu est déjà agissante. Vous savez, Daniel, je vais brosser un petit peu les choses rapidement. Daniel, il va être pris avec d'autres jeunes de sa nation. Il y a un jugement de Dieu qui s'opère ici. Et puis, ils vont être, on pourrait dire donc, déportés. Et il va être dans une situation pénible. Et voyez-vous, il y en a certains qui disent, moi je suis dans une situation pénible, je ne peux pas marcher avec Dieu dans cette situation-là parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est pas possible, il y en a tellement de choses qui vont bien pour les autres. Eux, ils peuvent se permettre de marcher avec Dieu, tout va bien pour eux. Il n'y a jamais rien qui leur arrive d'ailleurs en particulier, alors forcément c'est plus simple. Ici, Daniel, il est déporté et il va continuer de marcher avec Dieu. L'argumentation qu'on peut avoir n'est pas valable. Daniel, tout en étant déporté, sera quelqu'un qui restera consacré à Dieu. C'est quelqu'un qui vit ce qu'on peut dire ici, le renoncement. Et la grâce de Dieu va l'accompagner. Et Dieu, comme pour Élisée, va voir ce qu'il y a chez Daniel. Et résultat, il va lui donner de trouver grâce. Vous avez remarqué tous les textes qu'on a vu ce matin, ils s'emboîtent ici. Et Daniel, c'est quelqu'un qui va pouvoir être, alors qu'il est tout jeune. Ah oui, il est jeune, et alors? On peut être jeune et consacré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre et qu'on ne peut pas dépendre du frère qui est en place. Rappelez-vous, Élisée, il était sûrement plus jeune qu'Élie. Et il s'est mis au service d'Élie. Il n'a pas dit, j'ai tout. Ah, bah oui, ah, c'est vrai, je prends soin des autres. Ah, c'est vrai, j'ai un instinct de nourricier. Ah, c'est vrai, oh, merci Seigneur. Et puis, je suis vraiment quelqu'un. T'es quelqu'un qui te met au service alors. Et t'es quelqu'un qui accepte de te dépendre d'eux, de te mettre auprès d'eux, de travailler avec, de respecter la vision que les autres ont eue, le travail que les autres ont fait, et d'entrer dans un travail à leur côté. Pas pour dire, ah, c'est mon tour. Alors maintenant ça va être bien fait. Non. C'est pas ça. Ici, on voit, et je reviens à Daniel, donc, parce que punaise, sinon, on va partir jusqu'à 15h. Il nous est dit ceci dans Daniel, chapitre 1er, verset 8. La première chose qu'on sait de Daniel, à part qu'il était beau, ça intéressera des jeunes filles célibataires en tout cas, mais bon, Daniel n'est plus de ce temps, hein, donc c'est trop tard. Mais il nous est dit ceci, Daniel, qui était beau comme des autres ici, il y avait surtout cette beauté à l'intérieur, c'est qu'il était résolu. Résolu! On parle des résolutions, moi je voudrais vous dire, on souhaite c'était nos vœux. Des fois moi je me dis à David, bon vœu, mais bonne résolution garçon, surtout. On en est où là? Éprouvez-vous vous-même, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Bon, alors, t'en es où? Daniel résolut de ne pas se souiller, c'est-à-dire d'accepter d'être pollué, d'accepter des tâches qui viendraient de l'extérieur par les mets du roi de l'époque. Le roi de l'époque, il met tout ça. Il en met plein la vue, plein les yeux. Vous avez le roi de cette époque-ci, il en met plein la vue, plein les yeux. C'est des mets qui sont parfois pour certains succulents, mais à l'intérieur, c'est des graviers. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on se projette? Vous avez remarqué, on a lu dans Tite, et là, tout s'emboîte. Les convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ces choses-là. Chez Daniel, allez savoir, il y avait déjà la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le Dieu de la grâce dans l'Ancien Testament. Il y avait le Dieu de la grâce qui préparait le terrain de la grâce. Et il y a ici le fait que Daniel va être quelqu'un d'engagé. Et il va dire, il ne va pas vouloir se souiller par les mets du roi, par le vin dont buvait le roi. Et il va s'approcher du chef des eunuques, il va prendre un risque. La grâce de Dieu ne nous amène pas vers les chemins pétales de rose. Hein. L'enseignement de la grâce, le renoncement, ne nous amène pas vers les pétales de rose, ceux qui veulent vivre pieusement. Qu'est-ce qui se passe? Et vous ne pensez pas que c'est donc logique de pouvoir, comme nous dit le texte, de s'armer de la pensée de souffrir? Il y en a qui pensent que la pensée de souffrir, c'est donc uniquement les choses de la vie qui vont venir se confronter. Mais c'est aussi par rapport aux engagements qu'on prend. Mais ça vaut le coup. Parce que Dieu va se servir de Daniel. Et voyez-vous, il y a des choses que Dieu veut tisser dans les cœurs pour pouvoir par la suite se servir de nous. Pleinement, abondamment, sachant que nous ne serons pas là pour nous recommander, mais nous pouvons le faire avec toute humilité, acceptant de dépendre des autorités en place, priant pour elles, les soutenant, collaborant, entrant dans la vision, respectant le travail fait. Et par la grâce de Dieu, s'il le fallait, le poursuivre. Que Dieu soit béni. L'Écriture nous le dit, il va prier le chef, et là je vais essayer de garder 5 minutes. Ça va encore 5 minutes ? Je vais essayer, mais là, parce que là, c'était le tome 1. Il pria le chef des eunuques de l'obliger, de ne pas l'obliger à se souiller. Et le chef des eunuques va réagir. Le chef des eunuques va dire à Daniel, moi je crains mon Seigneur. Oui, tu crains ton Seigneur, mais moi je prends le risque de m'approcher à toi parce que moi je crains quelqu'un d'autre. Je crains le Dieu des cieux. J'ai été déporté peut-être. C'est dû à une situation que je connais parce que Daniel connaissait les choses d'après les textes des Écritures. Il le citera au chapitre 9 d'ailleurs de ce livre. Vous pourrez le lire. On n'aura pas le temps de le lire. Mais on le voit, Daniel, c'est quelqu'un qui sait ces choses. Et qui va rester un homme d'engagement. C'est quelqu'un qui va respecter les choses. Et ici, alors qu'il y a une situation qui se présente, Daniel va trancher. Daniel, il va prendre position. Daniel sait qu'il y a comme un joug qui est là. Qu'il y a quelque chose, une sollicitation. Et il va s'approcher du chef des eunuques et il va en parler. Le chef des eunuques va dire, je crains le Seigneur mon Dieu qui a fixé. Pardon ? Le Seigneur, j'ai dit quoi ? Le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, le Roi. Bien vu. Ça va, il y en a un qui écoute. Ça tombe bien, c'est le pasteur. Ça veut dire qu'il est à l'écoute. Vous avez un bon pasteur. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le Roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi verrait-il votre visage abattu ? Plus que celui des jeunes gens de votre âge. Alléluia. Mais juste avant, il nous est dit ceci, au verset 9, et j'ai volontairement fait en sorte de le mettre de côté. C'est que, voyant l'engagement que Daniel va prendre, Dieu est déjà en train d'amener à ce qu'il puisse trouver grâce. Voyez-vous, les hommes et les femmes qui s'engagent, qui laissent les enseignements de la grâce, et forcément, il y a des choses qui vont arriver, des vents contraires. Mais laissez-moi vous dire aussi que Dieu sera là pour aplanir les parties du chemin par rapport à la vision qu'il a sur l'œuvre qu'il veut faire à travers cette personne. Et c'est ce qui se passe au niveau de Daniel. Daniel va se confier, il va être résolu et Dieu va faire trouver grâce à Daniel, en faveur de Daniel plutôt, au niveau du chef des eunuques. La question c'est pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Donc ça, c'est quand même un bon package. Vous avez vos convictions, mais elles vont exposer ma situation devant le roi. Vous me demandez quelque chose, pour moi, c'est impossible. Pourquoi le roi vous verrait-il avec... Ça va me retomber dessus. Les conséquences de vos engagements vont me retomber dessus. Faisons attention au courant d'influence. Soyons prudents, sages. Mais faisons attention aussi au courant d'influence. Ici, Daniel ne s'est pas laissé arrêter, influencer. Il ne s'est pas laissé arrêter par les mets du roi. Il ne s'est pas laissé arrêter parce que le chef des eunuques lui disait. Daniel va plutôt lui répondre avec d'autres personnes qui vont se joindre à lui. Quel bonheur quand c'est ainsi. Mais vous avez remarqué tout à l'heure, c'est vrai que je disais par rapport au texte d'Élie. Élie lui a dit à un moment, que fais-tu ici? Je suis tout seul. Il n'y a que moi qui fais ceci, qui fais cela. Non. Il y en a 400 ou 700 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et nous, des fois, on se sent le seul, l'unique. C'est sérieux, ça? Il nous est dit ceci. Daniel va parler et dire, éprouve tes serviteurs. Éprouve tes serviteurs, verset 10, pendant 10 jours. pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Daniel n'est pas influençable. Daniel est égaré loin de sa nation. Daniel se retrouve dans un endroit où le texte avant, dans les textes d'introduction, nous disent qu'on va leur enseigner la langue des Chaldéens pendant 3 années. On va essayer de leur faire un lavage de cerveau. On va leur donner des autres noms. On va essayer carrément de les déraciner. Mais Daniel n'est pas déraciné. Laissez-moi vous dire que Dieu veut que vous soyez tellement racinés que rien ne pourra vous déraciner. Daniel est un homme d'engagement et il restera bien en place. Malgré, et là, il n'y a pas de vent contraire, là. Mais ça souffle de partout. Ça souffle par là, ça souffle par là. La langue des Chaldéens, les noms nouveaux, on essaie de nous donner un nom qui avait rapport avec les divinités de l'époque. Il y a plein de choses. Daniel, imperturbable. Bousculé, malmené, mais imperturbable. Et c'est un homme qui reste un homme de foi. Et on le voit, il va lui dire, quand on éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, ensuite tu regardes et tu verras. Daniel est un homme de foi. Là, il n'y a rien qui s'est passé pour l'instant. Il y a l'aimé du roi, et là, j'imagine, il y en a certains, peut-être même, qu'ils ont fait un peu les gloutons. Hein. Et Daniel se retrouve avec des légumes et de l'eau. Mais le texte nous dit, juste après, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Je crois que le chef des eunuques a dit là, je prends un risque, je prends le risque. Et Dieu va faire grâce à Daniel et va amener quelqu'un à quand même prendre un risque. Mais Daniel a pris le risque aussi de s'approcher du chef des eunuques. Il a pris le risque de dire non aux choses que le roi de l'époque lui proposer, l'aimé du roi. Le résultat, au bout de 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut me le lire d'ailleurs? Verset 15, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, lisez-le hein, si vous voulez bien. Vous avez vos Bibles, allez-y. C'est pas magnifique ça? Vous imaginez la tête du chef des eunuques? Bon, ça fait 10 jours. On va aller voir ça. Oula. Les engagements, laissez-moi vous dire que ça donne la pêche, en fait. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenir. Ça vaut le coup de ne pas aller vers les convoitises mondaines. Ça vaut le coup de, même si c'est difficile, même si c'est pas simple, même s'il y a des combats, même s'il y a des confrontations, même s'il y a des choses qui arrivent comme ça, là, boum boum. C'est un peu, vous savez, comme cet aveugle-là qui était sur le bord du chemin, Bartimée, hein, alors qu'il va crier au Seigneur, les autres vont lui dire, « Tais-toi !» Il a persévéré, et il a obtenu. Il y avait des vents contraires aussi pour lui, pour le pauvre malheureux. Mais il va aller jusqu'au bout pour obtenir sa guérison. Ici, Daniel va aller jusqu'au bout. Et ça va exposer les uns et les autres. Ici, il y a comme un cheminement, mais il y a la grâce de Dieu qui agit aussi. Parce qu'il y a aussi ce renoncement. Il leur accorda ce qu'ils demandaient au bout de 10 jours. Ils avaient meilleur visage. Il y avait surtout un meilleur état spirituel, à mon avis. Il y avait sûrement un meilleur état spirituel, puisque Dieu va pouvoir donner à Daniel certaines choses d'ordre spirituel. Il va pouvoir justement, parce que le canal reste bien ouvert, faire en sorte que ça puisse passer. Et alors que le roi va voir auprès de lui les satrapes, etc., les gens qui vont être des magiciens, etc., Daniel va avoir une position d'autorité. Il va être en fait une véritable autorité spirituelle parce qu'il a été pleinement soumis à l'autorité de Dieu. Et laissez-moi vous dire que pour être une autorité spirituelle, il faut d'abord être soumis à l'autorité de Dieu. Pour pouvoir entrer vraiment et permettre à l'autorité spirituelle de Dieu de pouvoir l'exercer et de faire de nous des hommes et des femmes vaillants, forts dans le combat même d'ordre spirituel, il nous faut être d'abord soumis à lui. Vous avez le droit de dire Amen si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord ? Dieu va accorder à Daniel, mais aussi à ceux qu'il a repérés. Nous, on a repéré Daniel. Parce que c'est le livre de Daniel, parce qu'il y a les visions de Daniel. Mais Dieu a repéré non seulement Daniel, mais a repéré tous ceux aussi là qui sont à ses côtés. Oh, c'est pas le même nom que Daniel. Nous, on est souvent attirés par un tel. Mais Dieu a été attiré, même par ce qui est humble ici. Les petits, enfin ceux qui semblent pas trop connus par rapport à Daniel pour nous. Mais l'Écriture nous dit, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et même de la sagesse. Et quant à Daniel, Dieu va pouvoir se servir de lui. Il y avait des choses que Dieu, rappelez-vous, par rapport à Élisée, il y avait des choses qui étaient déjà perceptibles dans le cœur d'Élisée. Il y avait déjà des choses qui étaient là, et Dieu avait préparé ce terrain dans le secret. Et chez Daniel, Dieu avait déjà fait préparer ces choses-là, même quand il était encore dans son pays avant d'être déporté. Et il arrive avec ce bagage-là, il arrive avec ce travail de Dieu-là. Il y a eu déjà tout un travail de Dieu. Dieu est à l'œuvre chez vous. Il veut achever cette œuvre, l'Écriture nous dit, pour la rendre parfaite au jour de Christ. Et ce n'est pas sans raison que Dieu fait ces choses-là. Et il fait les choses peu à peu, mais ça se construit, c'est ça. Et puis d'un seul coup, les choses sont là et ça passe. Et la grâce de Dieu peut se déverser. Et les fleuves d'eau vive peuvent se déverser. Daniel expliquait toutes les visions. Daniel expliquait tous les songes. Et à un moment quand le roi, et je vais m'arrêter bientôt, mais tant mieux pour certains, diront-ils, mais... Et Daniel, quand il va expliquer les choses, à un moment le roi va dire d'ailleurs, ben, voilà, j'ai fait tel songe, expliquez-moi ça. Et les uns et les autres vont dire, ben, tu nous expliques et on va t'aider. Le roi dit, c'est quoi cette supercherie là? Mais oui, il est temps que tu ouvres tes yeux sur ceux qui sont avec une supercherie. Mais au milieu de ton royaume, il y a quelqu'un qui lui marche avec Dieu. Il n'y a aucune supercherie. C'est un homme d'engagement, c'est un homme résolu et c'est un homme que Dieu est en train d'utiliser. Et lui pourra t'accorder par cette personne des réponses à ta question. Vous avez remarqué que parce que Daniel va être résolu, etc., Dieu va pouvoir l'utiliser pour les autres. Pas pour qu'il se fasse un nom, mais pour les autres, et ce sera même en faveur du peuple. Parce qu'il y aura des résolutions et des décrets que les rois que Daniel connaîtra qui vont prendre des résolutions en faveur du peuple d'Israël. Où on va reconnaître même que le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Hein? C'est le Dieu de Daniel. Mais quel témoignage rendu quand on sait honorer Dieu à ce point-là? Parce qu'on a été contre les vents contraires et qu'on a pu être utile. Vous avez remarqué, il nous est dit ceci, je termine. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, verset 20, et de l'intelligence, et sur lesquels les rois interrogeaient les uns et les autres, Daniel et ses compagnons, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, tous les astrologues qui étaient dans son royaume. C'est ainsi que fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Un combat spirituel sûrement ici, confronté à des choses, mais Daniel plus que vainqueur. Parce que Dieu est avec Daniel. Et Dieu reste avec Daniel. Mais je vous le disais, Daniel, c'est un homme qui va pouvoir être comme ça parce que c'est quelqu'un qui va être un homme des Écritures. Un homme, une femme. Ça pourrait être une femme ici pour nous, dans un service, mais de la consécration. La grâce de Dieu nous enseigne. Puissions-nous accepter toujours plus cet enseignement. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, elle est une lumière sur mon sentier. Et des fois, ben, la lumière, on préférait qu'elle passe sur le sentier de quelqu'un d'autre. Mais elle vient sur le nôtre et elle est faite pour ça. Et Seigneur, elle est faite pour qu'on puisse y marcher. Et je prie pour que les uns et les autres nous acceptions d'y marcher, que nous nous plaisions d'y marcher. L'Écriture nous le dit, c'est celui qui demeure dans ta parole, c'est lui qui peut porter du fruit et qui peut même en porter avec abondance à la gloire du Père. Seigneur, je te bénis pour ces moments, je prie pour que ta parole puisse continuer d'aller travailler les cœurs. Je te remercie pour les exemples de ta parole, ils sont utiles pour nos cœurs, pour nos vies, pour nos existences maintenant. Maintenant que ces choses sont devant nous, Seigneur, donne-nous de ne pas les balayer d'un revers de main, mais plutôt, comme le dit le psalmiste, de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, mais de pouvoir marcher comme elle nous le demande. Merci pour ta grâce.
Merci pour ces enseignements. Peut-être que il y a des enseignements que je n'ai pas acceptés, qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses, on essaye de trouver de l'argumentation, on essaye de trouver des raisons. Mais Seigneur, je prie pour que la grâce de Dieu, nous la vivions dans son entier. Que nous acceptions ces enseignements. Bien sûr qu'ils sont coûteux, mais ça vaut la peine, Seigneur. Je te remercie parce que tu veux nous diriger, tu veux nous utiliser. Mais c'est vrai que, Seigneur, le vase, il doit être pur et il doit le rester. Seigneur, c'est ce vase-là que tu peux utiliser. Et je prie vraiment pour que les uns et les autres soient bénis ce matin par le fait que ta parole leur a été apportée, Seigneur. Applique-la aussi au fond des cœurs qui s'ouvrent à elle et permet qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet pour lequel tu as souhaité qu'elle soit envoyée. Seigneur, je te bénis pour ces moments, Seigneur. À toi revienne toute la gloire. Je prie pour que tu puisses bénir cette assemblée, qu'il puisse travailler auprès du frère, qu'il y ait vraiment un accompagnement, que les uns et les autres puissent prendre leur part dans les choses qui sont à entreprendre en respectant le travail fait, la vision des choses, Seigneur, et que ton nom en soit glorifié en retour, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.